c'est Lisa du futur qui monte l'épisode, qui monte un minimum l'épisode comme je me le suis promis. Mais j'ai des petites remarques à faire quand même. Déjà, il n'y a pas vraiment d'intro, donc ça peut être problématique. Donc on va dire que ça, c'est une intro, d'accord. Et deuxièmement, il y a eu un petit souci technicos, hein, je vous passe les détails, mais en gros, il y a un bout d'un moment, le volume est beaucoup plus fort. Donc je vais vous mettre un petit slide là, un petit morceau de piano ou un truc qui. Un petit son au milieu de l'épisode pour vous faire comprendre que là ça va changer. Normalement je préviens. C'est entre la première partie et la deuxième partie, qui est une sorte de prélude. Je sais pas si c'est le bon mot, je sais pas, côté jardin et tout là. Tout le vocable du multimédia. Voilà. Bref, profitez de l'épisode. Et on se retrouve à la fin. Ok. Bon, du coup, on va essayer de faire quelque chose de pseudo-qualitatif pour cet épisode un peu spécial que je vais essayer de pas monter. Je vais essayer de résister à la tentation de ne pas le monter. Déjà, je suis toute seule. Pour cet épisode de l'ananas, je suis toute seule et je suis dans un état un peu particulier dans ma vie de manière générale. Et ce podcast est fait en fait dans une initiative qui est un peu particulière, un peu par obligation, je vais pas vous mentir, mais aussi par envie, mais dans un second temps par envie. C'est-à-dire que l'ananas a été créé. Pas du tout dans l'objectif de faire quelque chose de qualitatif, hein, je pense que ça se ressent dans les premiers épisodes. Ou alors c'est moi qui suis très dur avec moi-même, mais je pense qu'il y a des deux, mais plus l'un que l'autre. Je sais pas si ça vous arrive, hein, mais moi ça m'arrive pas mal aussi de faire un truc. L'ananas c'est typiquement quelque chose, je me suis lancée dedans et je le dis et je le répète, hein. Sans prétention aucune, sans vouloir vraiment faire quelque chose auquel je tiens. En fait, c'était vraiment pour m'amuser, pour voir, pour découvrir. Et ça, je le fais beaucoup. Et donc, ça ne va nulle part, il n'y a pas de but. Et dans ce genre d'expérience-là, de se jeter dans un truc et là, il y a un sentiment d'exposition parce que je le partage quand même. Alors, je le partage pas, je l'écris pas sur tous les toits parce que je sais que c'est pas bien. Donc, j'ai pas envie que les gens écoutent. Mais c'est une prise de risque de quand même le publier. Sinon je sortirai pas des épisodes. Et dans cette prise de risque-là, il y a. En même temps, je suis contente de l'avoir fait. En même temps, j'ai pas envie que les gens écoutent parce que c'est pas bien. En même temps, il y a une grande liberté de me dire oh, je m'en bats les couilles, quoi. Désolé pour ce langage cru, mais c'est vrai, c'est bien, on fait ça parce qu'on le fait, quoi. Parce qu'on se dit qu'on l'aura fait. Et en même temps, un vrai sentiment ambivalent d'échec. En me lançant là-dedans, je savais que ça allait pas être. Et c'est pour ça que j'ai pas fait d'effort non plus. Que ça allait pas être dingue. Que ça allait pas. Que ça allait pas fonctionner. Parce que c'est pas un truc. Je voulais pas au final que ça fonctionne. Parce que j'avais peur. Et donc j'ai pas investi dedans. Et là, cette année, je me suis dit, viens, t'enregistres au moins 3 podcasts. Parce qu'il y a quand même l'envie de prendre des risques. Et donc ça fait peur. Et donc pour ce premier épisode d'une sorte de nouvelle saison, je décide d'être toute seule parce que ça fait aussi très peur d'inviter des gens. Puisque s'il y a des gens, ça veut dire qu'ils ont aussi des attentes. Pour peu qu'ils écoutent des podcasts eux-mêmes, ils ont des attentes assez élevées, hein, parce que souvent derrière le podcast, il y a toute une production, etc. Ouais, c'est juste moi qui m'amuse et viens. Voilà, moi ce que j'aimerais capter, Peut-être avec l'expérience, ça viendra. Peut-être si j'investis plus de temps et de réflexion à ce podcast, pardon, ça fonctionnera mieux. Mais de capter ces moments de soirée où on va commencer à débattre d'un truc, et ça va aller loin. Et il y a une sorte de beauté. Alors ça peut être des débats sur des sujets horribles, mais il y a la beauté de ces moments-là qui, je trouve, sont un peu hors du temps, où juste on se partage des choses. Quand je dis que je suis dans une période un peu bizarre de ma vie, c'est que je crois que je commence à comprendre mieux le monde dans lequel on vit. Je commence à comprendre que personne ne sait comment on fait pour être dans une société, pour être une bonne amie, pour être... On a des bases, on a des notions. Il y a un truc un peu instinctif aussi de savoir se positionner par rapport aux autres. Mais au final, personne ne sait. Et sur des questions fondamentales, on sait pas trop en fait, hein. On fait ce qu'on peut comme on peut, et je crois que c'est tout. Et on peut s'accrocher à des valeurs, mais c'est d'un compliqué. Et je crois que... Alors on se connaissait pas avant, mais... avant, j'étais très attachée à des principes, à l'idée même d'avoir des principes. Je parle pas d'honneur. Pour moi, l'honneur est un peu compliqué, il y a un truc d'ego, je trouve. Mais bon. Alors que des principes, c'est beaucoup plus large. C'est s'attacher à des choses qui sont plus grandes que nous-mêmes. Et entraîner les gens avec nous dans des choses profondes qui se veulent morales, éthiques, etc. Par exemple, j'étais très attachée à la notion de mesure, de tout faire dans la mesure. Donc, évidemment, ne pas trop boire, ne pas trop sortir, ne pas être dans l'excès, faire tout dans la mesure. Il s'avère que plus tard, avec de recul, je faisais ça pas de manière très saine, mais il y a un équilibre des choses. Enfin, on peut essayer de tendre vers un équilibre dans sa vie. Et le souci, c'est que en grandissant dans cette notion-là de mesure... Attendez, on a un problème technique là. Oh non, attendez. Never mind, tout va bien. Je racontais quoi du coup? Oui, en grandissant dans cette notion de mesure, on arrive fortement à l'idée que tout ce qui est hors de la mesure est vraiment extrêmement néfaste, et on peut se renfermer dans la mesure, je dirais. C'est-à-dire que on va se définir des limites, mais des fois, enfin, la vie fait que on ne peut pas toujours rester dans ses limites, et c'est pas grave. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ne pas s'en vouloir d'être sorti des limites qu'on s'est nous-mêmes imposées. Et si ces limites, elles sont pas là où nous on a dit qu'elles étaient, elles sont où? C'est ça le grand souci aussi. Bon, bref. Donc il y a toute une phase de se trouver, en fait. Et je crois que je suis dans cette phase-là. Vous n'êtes pas sans savoir également que le contexte, hein, bon, vous voyez ce que je voulais dire, hein, les événements, bon, sauf c'est les attentats de 2015, mais tout le bordel là, que ça a été a fortement impacté nos vies à chacun. J'aime pas cette phrase. J'aime pas qu'on me dise, qu'on me répète, oui, ça a été dur pour tout le monde, bien évidemment. Bien sûr. Mais certains plus que d'autres. Ça, je pense que c'est évident et qu'il faut pas le cacher. Et donc, moi actuellement, et l'année dernière également, j'étais étudiante. J'étais étudiante et je travaillais à côté. Et j'ai perdu mon travail une petite partie de l'année, pendant quelques mois, et c'était dur et stressant de s'inquiéter économiquement et de devoir trouver une manière de travailler dans un contexte où on a l'impression que tout dépasse notre contrôle, une incertitude constante, une solitude que j'avais jamais vraiment... dont j'avais jamais fait vraiment l'expérience. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, j'ai passé une bonne partie de ma vie seule. Seule dans ma chambre, je suis actuellement seule dans ma chambre en train de faire un podcast qui n'a ni queue ni tête, et j'adore ça. Être seule ne me dérange pas, parce que je ne faisais pas l'expérience de la solitude. Voilà, parce que je me suis toujours intéressée à mille et une choses, et tant que j'apprenais, tant que j'avais la curiosité, tant que la connaissance était juste là, parce que j'ai de la chance aussi d'avoir grandi dans un moment de l'histoire, dans un certain pays, à une certaine époque, qui fait que la connaissance m'est accessible vraiment en trois clics, quoi. Et donc ça, c'est bien évidemment un privilège qui m'a permis de surmonter beaucoup de trucs. Et qui me fait du bien et qui m'apporte vraiment des choses, etc. Donc la solitude, je l'ai ressentie dans ma vie à des moments. Mais c'était toujours assez court. Si on rentre un peu plus dans le personnel, parce que je pense que c'est ça aussi dans l'initiative de prise de risque de ce podcast, c'est d'aller plus loin que ce qu'on pourrait imaginer dans le débat, si on peut dire ça. Pouah, je raconte vraiment n'importe quoi. Bref, donc j'ai passé beaucoup de temps toute seule dans ma vie, et parce que mes parents, j'avais un père qui travaillait énormément, et pas toujours, voilà, il travaillait loin, il pouvait travailler à l'étranger, il pouvait partir des mois, etc. Et une relation avec ma mère qui est un peu compliquée, mais le truc à retenir, c'est que elle est globalement inexistante. Et il y a un moment, j'avais 17 ans, et je m'en souviens très très bien, ouais, c'était en 2017, c'était en septembre, il me semble. Je me réveille, je me lève, et je sens une boule dans mon sein droit. C'est très très personnel, on a dit. Et là, je m'assure de ce que je sens. Je me dis, attends, est-ce que ça part? Est-ce que ça part pas? Ok, ça part pas. C'est rigide. Ok. Moi j'ai 17 ans, j'ai pas de connaissances médicales approfondies. Boule dans le sein, pour moi ça veut dire cancer. Et donc je me mets à pleurer. Et j'ai très peur, bien évidemment. Et j'ai 17 ans, j'ai une boule dans le sein, j'ai pas de mère. J'étais en train de parler avec mon meilleur ami sur WhatsApp, qui est un homme. Donc je l'appelle, je lui en parle. Il sait pas quoi répondre, bien évidemment. Il est genre, bah, va te demander de l'aide, enfin, faut qu'on sache ce que c'est, etc. Je fais, ouais, je vais faire ça, je raccroche. En bas, il y a mon père. Et là, je me sens seule. Ouais. Je sais pas si j'arriverai vraiment à le décrire, mais là, je me dis, il y a des gens autour de moi, donc je suis pas vraiment seule. Mais face à ce problème-là en particulier, qui est pas un problème spécifiquement féminin, mais là, et ça m'arrive très rarement dans ma vie, je crois que ça m'est arrivé 2-3 fois, mais là je sens que j'ai besoin d'une présence féminine, et que j'ai personne. Donc j'en parle à mon père, on fait des examens qu'il faut, on apprend que c'est rien du tout, que c'est des fibroadénomes, et que c'est absolument bénin et que tout va bien. Donc gros soulagement, hein, y a pas de soucis et tout ça. Mais dans ce moment-là où je suis dans mon lit, j'ai peur pour ma vie, j'ai 17 ans. Cet âge-là, il m'a marqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand j'avais 17 ans. Et je trouve que c'est un âge important. En tout cas, pour moi, dans ma vie, ça a été un âge important parce que... Après, légalement, t'es un adulte, mais t'es absolument loin d'être un adulte. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je suis toujours très loin d'être une adulte. Mais il y a une sorte de pseudo-cap. Une sorte de cap, ouais, que tu passes. Enfin. C'est ancré dans la société que c'est un cap que tu passes. Mais en soi, il se passe rien. Je veux dire, il y a rien qui se passe. Mais. Il y a une. À partir de ce moment-là, ça marque un changement. Parce que. Comment dire? À 19 ans, il me semble, hein, de mon expérience, ça y est, t'as 19 ans, t'es déjà plus lancé. 18 ans, c'est un peu transitoire, mais 17 ans, t'es une enfant. Je trouve, en tout cas, que. À 17 ans, on va te considérer bien plus comme une enfant qu'à 19. Et 18, c'est l'entre-deux, c'est l'intermédiaire. C'est le début du changement. Et puis 20, ça y est, t'es jeune adulte, et puis 21, et puis voilà. On se lance, quoi. Mais 17, en tout cas pour moi, a été un âge vraiment de transition entre l'ado et le début de la compréhension de ce que ça peut être d'être pensé comme adulte, ou jeune adulte plutôt. Je sais pas si c'est très clair, mais... Si vous voulez, là j'avais 17 ans et j'étais face à des problèmes de grandes personnes. Et ouais, ça faisait peur, quoi. Et là, je me suis sentie seule. Mais alors la solitude de confinement et tout ça, rien à voir. Parce que cette solitude-là que j'ai ressentie dans ma chambre ce septembre 2017, elle a duré peut-être 10 minutes. Après, je me suis rappelé qu'il y avait mon père et qu'il fallait qu'on sache, il fallait qu'on agisse, il fallait qu'on fasse ce qui était nécessaire pour savoir et pour attaquer ce truc de front. Et voilà. Il y a ce truc-là qui s'est déclenché assez vite de « Ok, ça fait peur, on fait quoi ? On agit, c'est parti. On en parle, c'est ok. » La solitude de 2020, de toute l'année 2020, non, quand même pas, mais la majorité de 2020 était d'une amplitude tout autre qui m'a impressionnée, qui m'a engloutie. Et ouais, enfin c'était... Je sais pas, c'était... Overwhelming. Overwhelming, comme on dit là-bas. Dans l'Eldorado. Vraiment, de trucs de... Vraiment, je suis noyée dans une solitude. Je pensais pas que c'était possible de ressentir quelque chose aussi intensément. Parce que 2020 était une année où j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Voilà, moi je suis très fière de moi d'avoir survécu à cette année. Je pense que n'importe qui a vécu des choses aussi difficiles doit être fière de soi. Quand même. Moi j'ai eu la chance que le Covid n'ait pas atteint des personnes de mon entourage de manière grave. Donc ça aussi, une grande reconnaissance de ça. Et Et j'ai beaucoup travaillé. Pas toujours à la fac, ironiquement. Mais j'ai beaucoup de donné de moi à 2020. Et trop, en fait. Trop. Alors, on parle beaucoup de burn-out. Et j'ai pas été diagnostiquée, donc je vais peut-être me restreindre d'utiliser ce terme. En tout cas, j'ai énormément travaillé. Et comment se sont organisées les choses, j'avais l'impression de travailler pour rien. C'est-à-dire que la fac est compliquée. La fac était d'autant plus compliquée dans le contexte de 2020. Et en fait, quand je demandais de l'aide à n'importe qui, je suis allée chercher de l'aide à beaucoup de portes. Et on m'a beaucoup dit, non mais c'est dur pour tout le monde, vous savez. Et je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible d'avoir quelqu'un en face de toi qui te demande de l'aide pour sa santé mentale, pour sa survie. Et je sais que j'étais pas la seule. Et qu'on te dise, non mais c'est dur pour tout le monde. Moi ça me dégommait le moral. Le peu de moral qui me restait était lapidé, quoi. Parce qu'il y a deux options. Pour moi, il y avait deux options. C'était soit vous avez aucune idée de ma douleur actuelle et vous la minimisez et c'est horrible. Soit vous ressentez exactement ce que je ressens, auquel cas c'est horrible si on est tous comme ça et que rien ne change. Parce que y avait des promesses de solutions en plus. Mais c'était pas... se sont pas réalisées déjà, au final. Et pour moi, elles étaient clairement pas adaptées. Bon bref, c'est pas ouf. Y a pas de sujet hein, à ce podcast, comme vous l'avez bien compris. Il y a beaucoup de moi qui parlent de moi, hein, parce que, bon, ça change pas d'habitude. Ah, je voulais faire un jeu.
Oui, c'est ça.
Alors, là. Interlude. Oh, si on faisait une petite interlude. Allez. Oh, bah vous savez quoi, interlude. Alors, bon, je crois que c'est clair, hein. Ça fait 1000 ans que je le dis, mais rien n'est prévu, d'accord? Rien n'est écrit et tout ça. Ce qui est évidemment un signe d'une piètre qualité, on est tous d'accord. Mais je pense que j'aimerais... Pour ce premier podcast d'ouverture de la saison 2021, continue à parler de prise de risque. Parce que c'est vraiment un peu le sujet de cette période-là de ma vie, et notamment les conséquences de prise de risque. Donc, comme... j'en ai un peu parlé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé parce que je me suis engagée. Je me suis engagée dans des projets qui me tenaient à cœur. Et j'ai dû assumer cette responsabilité-là. Et donc de beaucoup travailler. Et c'était la première fois de ma vie que je m'investissais autant dans quelque chose et au final dans ma propre vie. Et il y a eu beaucoup de conséquences de ça. Et notamment, en fait, dans assumer ses responsabilités, il y a aussi, en fait, assumer la diversité de ses responsabilités et comment gérer tout ça. Et bien évidemment, gérer tout ça dans un contexte, qui était celui de 2020 et qui est encore celui de 2021. Donc tout ça, c'était pas facile. Et ce qui m'a vraiment choquée, choquée, il n'y a pas d'autre mot, c'est de se rendre compte de beaucoup de choses d'adultes, en fait. De se rendre compte de à quel point le monde est injuste. Et il n'y a pas... je sais pas encore. Je comprends de plus en plus que je ne comprends pas certaines choses et que je ne sais pas beaucoup de choses. La grammaire me connaît bien, du coup, là. Là, en termes de syntaxe, on est pas mal. Non, mais je pense que la phrase que j'ai le plus dit, la phrase que j'ai le plus dite en 2020, c'était mais comment on fait? Comment on fait? Qui, quoi, où, comment? Vous voyez? Les W, là, en anglais. Du pourquoi, du comment, de. Ouais, comment on fait? Comment on fait quand on est de l'autre côté de la rive? Que on n'est pas du côté des gens qui s'en sortent. Comment on fait? Il y a eu des problèmes économiques déjà qui ont rendu la chose beaucoup plus compliquée aussi. Et c'est vrai que dans mon entourage, il s'avère que j'étais avec des gens qui avaient plus de ressources que moi. Et donc qui n'avaient pas les mêmes problématiques dans ma vie. Et donc ils s'en sortaient mieux. Et je ne comprenais pas la logique de quand t'es dans une situation qui va pas, et ben ça empire. Et on va te demander plus. C'est-à-dire que moi je suis étudiante et je suis salariée. Et on me demande de faire plus d'efforts. Quand ma situation me contraint à faire déjà plus d'efforts. C'est-à-dire que je dois travailler plus, je dois mieux m'organiser, en plus de travailler que quelqu'un qui ne travaille pas. Et donc cette personne a un avantage, et donc elle va mieux travailler. Et c'est logique, c'est la logique. Et quand j'en parle, les gens me disent, bah oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et il n'y a pas d'issue. Genre, mais vous êtes sûr? Qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas un moyen de s'en sortir, parce que vraiment c'est insupportable quand on est de l'autre côté de la rive. Et ouais, j'ai pas de réponse, en fait. Ouais, c'est déprimant, hein, je vous l'accorde, ce podcast est vachement déprimant. Mais c'est une réalité que avec laquelle j'apprends à vivre avec. Et c'est pas toujours facile. Ça va un peu mieux. Bon, déjà, là, je reviens des vacances, d'accord? On est en septembre, au moment où j'enregistre ça. On est le 13 septembre, pour être exact, 2021. Et donc, pour moi, ça va, je gère. Mais ça reste pas facile. Et c'est pas facile à gérer, ouais. Et puis là, c'est vrai que c'est d'autant plus affolant d'en parler. Et là, il s'avère que du coup, j'en parlais à des gens qui étaient du côté un peu privilégié, si je puis me permettre. Si je puis employer ce terme, c'est pas facile à dire. Si je puis employer. Ouais, si je puis employer ce terme de privilégié, c'est vrai que la réponse va être là, bah ouais, enfin, faut, je sais pas, faut s'en sortir. Et c'est pas eux qui savent. Mais en fait, il y a. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui sait comment on fait. Ou alors si tout le monde croit qu'il sait. Ouais, c'est. Et c'est le problème quand on commence à se poser des questions un peu. Parce que là, je parle d'un contexte économique, mais il y avait ce genre de questionnement qui revenait. À toutes les sauces, voyez-vous, sur sa place dans la société, sur quel est mon rôle, quelle est ma classe, à quel groupe j'appartiens, est-ce que j'ai vraiment envie d'appartenir à ce groupe? Donc tous ces questionnements-là revenaient en permanence. Et ouais, il n'y a personne qui sait, quoi. Et quand on commence à poser ce genre de questions presque existentielles, enfin même au final c'est complètement existentiel, la dureté de la réalité, c'est que bah, faut pas se poser ces questions-là. Je crois. Alors évidemment, je sais pas. Ça, on l'a établi, personne ne sait rien. Mais. Ouais, ça part loin, hein, mais bon, c'est pas très la fête. En vrai, je vais bien. C'est juste. Pour parler un peu des difficultés qui sont réelles dont on a dû faire face. Et je sais que j'étais pas toute seule, mais j'ai pas trouvé de gens qui ont vraiment traversé, pas exactement hein, ce que moi j'ai traversé, mais des choses assez similaires pour qu'on se comprenne bien. Moi, quand j'en parlais, j'avais surtout oui, les cours en distanciel c'est nul et tout. J'étais genre, bah ouais, c'est grave naze, je suis d'accord, hein. Mais au-delà de ça, je parle d'inégalités sociétales qui me foutent la rage. Ça, genre, oui, bon. Après, j'ai réalisé que je parlais surtout à des gens cis blancs hétérosexuels aussi, donc c'est peut-être là le souci. Qui n'étaient pas forcément riches, mais qui n'étaient pas forcément inquiets non plus de leurs ressources. Donc ça me faisait que creuser dans ma tête l'idée qu'on était vraiment sur deux rives différentes et que la mienne était dans une zone inondable. Mais voilà. Bon, bref. C'est ça un peu les questions qui taraudent. Et c'est vraiment quand on commence à se poser ce genre de questions de qui, que, quoi, donc, où. C'est une pente glissante, quand même. Parce qu'encore une fois, personne n'a de réponse. Mais en même temps, t'as l'impression que tu peux pas avancer si t'as pas les réponses. Parce que s'il n'existe pas de réponse universelle et que la réponse est juste reste dans le déni, fais autre chose, divertis-toi jusqu'à ta mort, c'est pas ouf. Parce que justement, si tu te poses des questions, c'est que t'arrives pas à te divertir. Et que tu peux pas juste passer à autre chose. Et est-ce que c'est ça grandir? C'était ma grande question aussi, c'était est-ce que être adulte, ça veut juste dire pas se poser de trop de questions? Enfin, pour être un adulte qui fonctionne en société, est-ce que c'est la réponse, c'est en fait pour bien vivre, au moins pour survivre, pour pas tomber en dep tous les fucking jours, creuser sa tombe. En fait, est-ce qu'il faut ne pas se poser de questions et juste on n'avance pas et on reste là où on est. Et j'ai pas de réponse. Et pendant très longtemps, l'ébauche de réponse que j'avais, c'était tant que tu fais ce que t'aimes et que tu tends vers une sorte d'idée qui est plus grand que toi, peut-être ça va. Et par là, j'entendais dans mon cas, pour ma personne, ce qui me correspondait, c'était apprendre, qui est vraiment ce qui fait de moi moi, je pense. C'est le fait de continuellement apprendre, absorber des connaissances qui sont fascinantes et qui, pour moi, me font encore plus appartenir à un monde, à ce monde, d'apprendre à le connaître dans toute sa diversité. Son histoire en politique même, qui est pas forcément quelque chose qui me passionne de base, il y a forcément des connaissances que je vais trouver intéressantes. Donc ça, et tendre vers un truc plus grand qui est pour moi la bonté humaine, la chercher et la trouver. Et j'ai perdu de vue ça l'année dernière, et encore cette année. Parce que je me suis trouvée dans une situation où c'était... Où la connaissance, j'en avais accès, mais j'avais. Bon, je travaillais tellement que j'avais pas tant le temps de m'occuper d'entretenir ce truc-là. Et juste, en fait, globalement, je l'ai perdu de vue. Et j'ai perdu la passion pour ce que j'étudiais. Parce que il y avait un truc où c'était forcé, quoi. Où c'était. Excusez-moi. Tout va bien. Oui. Où j'en étais, excusez-moi. Et j'ai perdu la passion de ce truc-là. Et la bonté humaine a volé en éclats. Je suis devenue tellement cynique. C'était impressionnant. Et je me haïssais parce que je devenais cynique. Et je devenais une sorte de stéréotype d'un adulte aigri à 20 ans. Que je voulais absolument éviter d'être, mais parce que la vie m'avait trop pris, quoi. Elle avait pris mon confort, elle avait pris ma santé mentale. Et j'en voulais beaucoup à la fac, qui pour moi n'aidait pas du tout, et qui même au-delà de ça était la cause de mon désespoir, parce qu'on était tout seul. Ils ont beaucoup mis en avant le fait qu'on n'était pas bien, et que en tout cas moi dans mon cas, hein, parce qu'en plus on est beaucoup dans notre promo, donc c'était évident que pour eux et pour nous aussi, on le savait, ils pouvaient pas mettre en place quelque chose de personnalisé, d'individualisé, de personnel, quoi, en termes d'aide mentale, ça pouvait que être des conseils généraux donnés par des gens qui sont pas du tout des professionnels de santé, parce qu'ils n'avaient pas le budget et peut-être aussi pas le temps, enfin je sais pas, mais il y avait tout plein de trucs comme ça où en fait ça sentait que eux non plus ne savaient pas. C'était pas du tout rassurant, du coup. Ouais, un podcast pas drôle, hein, au final. On peut peut-être enchaîner avec une blague de Toto pour détendre l'atmosphère. Mais. Yes. Mais c'est aussi ça, ce podcast-là, c'est qu'il y a tellement pas de règles que je peux m'en servir aussi comme catharsis. Et c'est pas un truc nouveau que j'ai tué pendant un an, hein, j'en parle beaucoup, c'est juste que là le jugement et la réponse des autres, je l'ai pas. J'aurais même pas quand j'aurais posté ce podcast, parce que personne n'écoute, et c'est quasi tant mieux. Donc c'est ça aussi la liberté de ce truc-là, dont je parlais plus tôt, c'est. Tant mieux, c'est presque une chance. Et là, ça va mieux du coup. J'arrête un peu de me poser ce genre de questions. Mais ce qui me frustre énormément, c'est que je sais pas pourquoi ça va mieux. Enfin, j'ai des sortes de réponses, mais c'est pas des réponses qui pourraient formuler une sorte de guide pour s'en sortir, quoi. Des réponses du genre bah ça va mieux parce que je sors d'un été où j'ai pris soin de moi. Du coup, est-ce qu'il faudrait prendre soin de soi? Oui, la réponse est facile. Pendant une routine où tu travailles de 7h30 à 21h, tu peux pas. Tu peux pas. Moi j'essaie de prendre 30 minutes le soir, sauf que le 30 minutes le soir pour prendre soin de toi, bah, je suis crevée, j'ai rien envie de faire. Ça fait une semaine et demie que je me dis qu'il faudrait faire un masque de visage, et j'ai pas la foi. Parce que le soir, je veux juste dormir. Et puis je range un peu et ça me fait un peu de bien, mais sinon je peux pas, quoi. Voilà. Donc je sais pas si j'ai vraiment trouvé des éléments de réponse. Ou si juste je m'habitue à la situation et que du coup j'ai plus de questions à me poser. Parce que j'ai survécu l'année dernière, donc peut-être que je vais survivre cette année. Bon, c'est même très probable, mais bon. Je sais pas. Est-ce que. Je pense que la question finale du truc, c'est est-ce que la résilience, c'est un processus conscient ou c'est juste vraiment quasi mécanique? Tu vois, une mécanique cérébrale de. Ah oui, ça c'était à chier. On refait? Ok, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit pas autant à chier. Est-ce que la résilience, c'est notre cerveau qui veut se protéger d'événements difficiles répétés, et du coup il est là genre non t'inquiète, là je sais que ça va être stressant, du coup on arrête de stresser. Je crois pas, hein. Je pense que c'est plus ou moins conscient, mais et encore j'ai. Bon après, c'est aussi une question de standard, j'allais dire, j'ai pas l'impression d'avoir assez travaillé sur moi pour que ce soit ok. De passer cette année avec moins de stress, moins d'angoisse et tout ça. Mais après, c'est peut-être moi qui mets la barre trop. Peut-être en fait j'ai assez travaillé. Mais ça, je ne le sais pas. Je le saurai que dans les moments où ça va pas et comment je réagis. Et donc la réponse à comment on fait, c'est juste on gère sur le moment. Mais c'est horrible de se dire ça. C'est absolument horrible. Ça veut dire que pour survivre, faut s'acclimater à des moments de stress et d'angoisse. C'est peut-être ça, c'est peut-être comme ça qu'on gagne du sang-froid ou du recul même. C'est un excellent moyen de s'entraîner. C'est ça en fait. Peut-être que gérer son stress, c'est une mécanique cérébrale consciente, enfin une mécanique cérébrale et émotionnelle, du coup, plus ou moins consciente, a fortiori, j'utilise des mots et tout là, à force de se mettre dans des situations pas cool et de s'en sortir. C'est chiant, non? On se fait chier là, non? Encore une fois, hein, je sais pas. Je sais pas. La phrase que j'ai beaucoup entendue aussi, c'était on y va un jour après l'autre. Mais c'est une question, c'est une réponse de merde aussi quand ça va pas bien. On y va un jour après l'autre. Tu te fous de ma gueule? Ça fait sens avec le recul, maintenant que ça va un peu mieux, tu vois. Bien sûr, parce que ta vie, elle est composée d'un jour après l'autre et de moments après l'autre et. Mais c'est horrible de se dire ça. Parce qu'un jour où ça va pas, tu vois, genre, ah bah il y a encore demain. J'ai pas envie qu'il y ait un demain. Parce que demain, il va être aussi nul qu'aujourd'hui. Et pas forcément, bien évidemment. Mais quand ça va pas, de toute façon, tu le sais à peu près. Que ça va pas aller pour demain non plus. Du coup, c'était la grosse teuf là pendant un an. Et je suis pas sûre d'avoir beaucoup appris. Non, si quand même. J'ai appris que je sais pas comment la résilience existe, d'accord? Ce qui fait qu'on est résilient. Je sais juste que j'ai survécu à l'une des années les plus difficiles de ma vie. Et ça m'a permis de vivre des expériences que j'ai jamais imaginé dans ma vie vivre. Ça m'a apporté énormément. Que je suis plus la même personne qu'avant. Je sais pas si c'est en bien ou en pas bien, je sais juste que j'ai grandi. Ça, c'est sûr. Je sais pas si j'ai pris assez de recul pour mieux me connaître, par contre. Je crois que ça a réveillé beaucoup de questions en moi, par contre. C'est assez sûr. Et j'espère que ça m'aura appris à plus être reconnaissante. À plus contempler l'instant présent. Ouais. C'est pas facile la vie, hein. Et ça aussi, je l'ai appris. Que c'était pas facile. Surtout quand on est de l'autre côté de la rive. Cette fucking rive. Qui est la vie. Le tour de la vie. Comme disait Pocahontas. Non, c'est quoi? Comment on appelle? Ouais, voyez, hein. Ce qu'elle dit. Shit, j'ai pas ma propre ref. Ça c'est une bonne présentatrice de podcast. Bah, je voulais vous dire un truc et j'ai plus. Bref. Bon, j'espère que ça a été pour vous en tout cas. Si vous avez tenu jusque-là, n'hésitez pas à vous manifester hein, sur les réseaux. Facebook, Instagram. Très peu actif, hein, j'avoue que je vais pas non plus les mettre à jour régulièrement. Pour cause de flemme. Non, mais encore une fois, la publicité de ce podcast, je pense que c'est pas non plus une de mes priorités, puisque le sentiment de liberté de se partager à cœur ouvert vient aussi du fait que ce podcast n'existe pas. Point. Allez, j'arrête là. Non, mais il n'existe pas dans la vie de beaucoup de personnes. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est tout le débat de s'il se passe quelque chose mais personne ne le voit, est-ce que c'est vraiment arrivé? D'accord? C'est ce qui a lancé tout, tout, tout le phénomène réseau social, tout, il se passe le moindre truc, on filme pour prouver que ça est arrivé. Et dans ce podcast, je le vois presque comme une mandala. Un mandala ? Je sais pas. Vous voyez, quelque chose de très éphémère. Quelque chose qu'on sait, ça va pas durer. Ou peut-être ça va durer, mais c'est pas le but. C'est un message. Et il a pas de destinataire. Il existe sans vraiment être présent. Parce qu'il n'est pas... Voyez ? Voyez ou pas ? Putain, ça se voit que j'ai arrêté la philo, non ? Ça se prend la tête quand même. Hein. Ça aussi, j'ai beaucoup entendu de... Mais arrête de te prendre la tête. Putain, genre, mais c'est horrible. Moi, je pose des questions qui sont pour moi importantes. Et on me dit, arrête de te prendre la tête. Et en fait, je crois que c'est ça la réponse. En toute honnêteté, je crois que c'est ça la réponse. On peut se faire un peu de... D'ASMR un peu. Ouais. Ouais, je pense que je vais essayer d'écouter un peu plus mes propres conseils. Être reconnaissante. Faire les choses qu'on aime. Et tendre vers un truc plus grand que nous. Si tel est ton destin. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Peut-être une petite section finale. La recommandation. Putain, j'en avais une en tête. Excusez-moi. J'en avais une en tête et je l'ai complètement zappée. Putain, je voulais parler du rasoir d'Occam aussi. Chose que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris en biologie. Ce qui fait sens au final, mais c'est un truc philosophique de base. De base. Non, de base. Reco. Alors, attendez. On reprend. La recommandation. Les recommandations, plutôt. Qu'est-ce que je peux vous recommander ? Putain, j'en avais un. Je l'oublie. Recommandation musique. Je redécouvre, là, en ce moment, quelqu'un que j'écoutais en 2017, qui s'appelle Rex Orange County. Qui est très connu, hein, c'est pas très niche. Mes recommandations vont être jamais très très niche. Hein. Mais c'est pas très grave. Ça veut dire aussi que c'est aimé par beaucoup de gens. Donc peut-être éventuellement qualitatif. Rex Orange County, du coup, un gars à une voix très particulière, très reconnaissable, qui moi m'apaise. Et voilà, il a fait une chanson qui s'appelle It Gets Better et une autre qui s'appelle It's Not the Same Anymore que j'aime beaucoup. Je vous la conseille, c'est très calme, c'est très posé. Je la trouve magnifique, il y a un peu de violon et tout ça. Le gars fait des chansons. Il a été très connu du coup en 2017 pour son album très édulcoré, très summer, machin et tout. Et là, il fait des choses un peu plus sérieuses, sur des problématiques plus sérieuses, et du coup, comment il s'appelle la chanson ? It's Not the Same Anymore parle de quelque chose de très marquant, et qui est complètement dans le sujet, qui est de l'évolution de soi dans la vie, et du coup, il y a des versions de nous. Je sais pas si vous ressentez ça, mais moi je le ressens fortement, j'ai l'impression d'avoir énormément changé en peu de temps. Et que du coup, il y a des versions de moi. Et il faut que je me retienne de comparer mes versions de moi. Parce que souvent, je suis genre, ah, mais avant, j'étais plus comme ça, et ça, c'était bien. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai plus de confiance en moi. Et ça, c'est super. Et j'arrive à faire plus. Et ça, c'est waouh. C'est waouh. Bref, voilà. Ça, reco musique. Peut-être une petite reco-série, qu'est-ce que j'ai sous le manteau ? une série déjantée, sombre, très bizarre, Nip Tuck, des débuts des années 2000, donc c'est un peu sombre. Et c'est de Ryan Murphy, le gars derrière American Horror Story. Donc si vous connaissez l'esprit de la série, c'est comme... Il y a l'esprit de la série, du coup, dans Nip Tuck. Il y a l'esprit American Horror Story dans Nip Tuck. Et en fait, il y a des prémices de American Horror Story. Donc pas dans l'histoire, mais dans comment c'est fait. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez, une saison d'American Horror Story était transférée sur un épisode de Nip Tuck. Mais dans une histoire en continu, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes personnages et tout ça, quoi. Ce qui rend, du coup, la vie de ces personnages complètement farfelue. Hein, vous en êtes conscient. Et c'est abracabrantesque comme série, c'est très bizarre, très particulier. Et j'arrive pas à en décoller. La série est pas bien, je trouve, mais j'arrive pas à m'empêcher de la regarder. Ça, qu'est-ce que peut-être une reco-livre? Une reco-livre, en ce moment je suis dedans Simone de Beauvoir. Donc bon, si vous voulez, j'ai un peu envie de me bagarrer avec le genre masculin. Mais ça va, on s'en sort. Disons que je le lis en plusieurs fois, quoi. Putain, mais j'avais une super reco, je suis dégoûtée. Ah, en podcast, reco podcast, un podcast qui est vachement bien, qui s'appelle Vulgaire, Ultra Digeste. C'est une meuf qui s'y connaît pas trop en truc, qui vous parle d'un sujet, c'est un sujet par podcast, et elle développe du coup ce truc-là. Donc la manière dont c'est fait, c'est elle choisit un sujet où elle s'y connaît pas trop, par exemple le rein ou le joint de culasse, et elle va se renseigner et elle vous fait part de ses découvertes. Et donc c'est cool parce que c'est pas du tout une experte machin et tout, c'est de la vulgarisation au plus bas de l'échelle, mais ça fait plaisir. Du coup c'est simple, c'est divertissant, les podcasts sont plus ou moins courts, et voilà. Et celle qui a fait ça a fait ça pendant le confinement. Et enfin, démarrer ça pendant le confinement, le premier, je crois. Et ce n'est l'époque où on comptait les confinements, hein. Ça date. Et voilà, c'était vachement sympathique. Donc je vous conseille ça. Et puis, bah, je crois que ça va être tout, hein, parce qu'après, on peut... Il y a mille choses à voir et à découvrir. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois, pour des prochaines recommandations, sûrement. Et puis, écoutez, je sais pas à quoi elle va ressembler cette saison de l'ananas, mais j'ai hâte de découvrir en même temps que vous. Enfin, un peu plus tard, du coup, parce que moi je fais le montage et tout, hein, t'as compris, dans la limite des stocks disponibles. Et voilà. Ok? On se dit ça. Ciao. Bisous. Prenez soin de vous, les copains. Et voilà, je sais pas, mangez des bananes, je crois. Je sais pas. Vivez!
C'était éprouvant, on y est arrivé, on replonge nos petits orteils dans le pédiluve petit à petit. On va se jeter peut-être éventuellement dans la piscine. Cette analogie part beaucoup trop loin. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous remercie d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est un miracle. Non, mais en vrai, ça me touche particulièrement que des gens, au final, qu'il y ait quand même des gens qui écoutent. Et de suivre ce périple de juste on sait pas ce qu'on fout et mais on le fait. Et c'est ça, la leçon de vie qu'il faut retenir, c'est que voilà, si vous voulez faire des trucs, faites-les. Et venez, on voit ce qui se passe après, je crois. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. La conclusion de cet épisode-là qui ouvre le bal pour cette nouvelle saison. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'Ananas. Tout ça pour dire que j'hésite à acheter des Crocs, mais est-ce qu'au final, ça vaut le coup d'avoir des coups de soleil en forme de trous sur les pieds?